Chapitre 5. Le départ de Parangon.
Je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de refaire des essais en mer.
Ambre lança à Althea un regard empreint de lassitude.
Pas de temps, pas d'argent. Et après chaque sortie en mer, deux ou trois matelots qui prennent la poudre des scampettes.
Si on avait refait des essais, Althea, nous n'aurions plus un seul membre d'équipage.
Elle pencha la tête vers son amie.
C'est la cinquième fois qu'on a cette conversation ou bien la sixième ?
La 27e, si je compte bien,
intervint Brashen qui vint se placer entre elles. Elles s'écartèrent pour lui faire place à la lisse d'arrière. Il porta comme elle les yeux vers le large, au-delà de l'entrée du port de Terrilleville. Il émit un petit gloussement.
Il faut t'y habituer, Ambre. Les marins répètent éternellement les mêmes conversations. Sujets principaux, la mauvaise nourriture, l'imbécile de capitaine et le scélérat de second.
Vous oubliez le temps pourri et le navire indiscipliné ?
Renchérit Althea. Ambre haussa les épaules.
Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois m'habituer. Voilà des années que je n'ai pas entrepris de longs voyages en mer. Quand j'étais jeune, je n'avais pas le pied marin. J'espère que mon séjour à bord ici dans le port aura exercé mon estomac à supporter un pont instable.
Althea et Brashen eurent un sourire hilar.
« Croyez-moi, non !» déclara Brashen. « J'essaierai de ne pas trop vous en demander les premiers jours. Mais si j'ai besoin de vous, j'aurai besoin de vous, et même à quatre pattes, il faudra que vous fassiez de votre mieux entre vos voyages vers la Lys. »
« Merci du réconfort, »
répondit Ambre. Le silence tomba entre eux. Malgré leurs paroles désinvoltes, ils avaient tous des doutes sur ce qu'ils allaient affronter aujourd'hui. Le navire était chargé, la plus grande partie de l'équipage embarquée. Cachés dans les cales, à l'insu des matelots officiellement enrôlés, il y avait sept esclaves qui avaient décidé de saisir l'occasion pour s'enfuir vers une nouvelle vie. Althea évitait de penser à eux. Le risque qu'ils prenaient ne les concernait pas seulement eux. Si quiconque les découvrait avant l'appareillage, qui sait ce qui pourrait en résulter ? Et elle ignorait comment les membres réguliers de l'équipage réagiraient devant ces matelots supplémentaires. Elle espérait qu'ils seraient contents d'être plus nombreux à se partager le travail. Il y aurait probablement des bagarres pour délimiter territoire et couchette, mais c'était chose commune sur tous les navires. Elle respira et se dit que tout irait bien. Pourtant, elle avait pitié des hommes entassés en bas. L'attente devait être angoissante pour eux. À l'aube, ils appareilleraient. Althea regrettait presque qu'ils ne mettent pas à la voile maintenant. Mais prendre le large ainsi, en silence, dans l'obscurité, c'était brûler la politesse. Mieux valait attendre, subir les adieux et les bons vœux de ceux qui allaient assister à leur départ. Mieux valait aussi jouir d'une bonne visibilité et d'une bonne brise qui leur donnerait de la vitesse.
« Comment est-il ? »
demanda Brashen en regardant au loin.
« Il est inquiet, et en émoi, impatient et mort de peur. Sa cécité... »
interrompit-il d'un ton brusque. « Mais cela fait des années qu'il en souffre. Il est rentré à Terrilleville aveugle et chaviré. Ce n'est pas le moment de se risquer à sculpter du bois sorcier. Il faudra qu'il nous fasse confiance, Ambre. Il a saisi la moindre occasion pour se raviser. Je ne veux pas prendre le risque de modifier son état. »
« Si vous essayez et que vous échouez, eh bien, » poursuivit-il en secouant la tête,
« je crois qu'il vaut mieux pour nous tous qu'il navigue tel qu'il est. Cet obstacle lui est familier. Je crois qu'il peut affronter plus facilement la cécité qu'il a acceptée qu'une grande déception. »«
Mais il ne l'a jamais acceptée, »
commença Ambre avec chaleur.
« 42 !»
interrompit Althea qui, après un soupir, parvint à sourire.
« Nous avons eu cette conversation au moins 42 fois. »
Ambre approuva d'un hochement de tête. Elle changea de sujet.
« La voie. »
Brashen grogna puis se mit à rire. « Je lui ai laissé cette dernière nuit en ville. Il sera sur le pont à l'heure. Je m'en porte garant. Il aura la gueule de bois, aucun doute, et il s'en prendra aux matelots. C'est de tradition et ils s'y attendent. Il va leur en faire voir et ils lui en voudront. » C'est aussi de tradition. Nous n'aurions pu trouver mieux pour ce travail.
Althea se mordit la langue. Elle avait perdu le compte des disputes qu'elle avait eues avec Brachon à ce sujet. Du reste, s'il venait à reprendre la discussion, elle serait probablement forcée d'admettre que Lavoy n'était pas si mauvais bougre qu'elle l'avait cru. L'homme avait un côté honnête. On ne pouvait pas compter dessus absolument, mais quand sa loyauté refaisait surface, il s'y tenait. Ce serait un tyran, elle le savait, ainsi que Brachon. Mais tant qu'il ne pousserait pas le bouchon trop loin, un tyran, c'était exactement ce qu'il fallait à cet équipage. Les essais en mer avaient révélé toutes les faiblesses de leurs matelots. Althea savait désormais à quoi s'en tenir sur les tirs au flanc et les autres. Certains étaient paresseux, d'autres imbéciles et d'autres encore sournoisement décidés à en faire le moins possible. Son père, elle en était convaincue, les aurait tous débarqués. Lorsqu'elle s'était plainte à Brachon, il lui avait répondu qu'elle avait toute l'attitude pour les remplacer. Elle n'avait qu'à en dénicher de meilleurs et les enrôler avec le salaire qu'il pouvait proposer. Ce qui avait mis un terme à la conversation. « J'aimerais déjà être au large, » dit Brachon à mi-voix. « Moi aussi, » renchérit Althea. En même temps, elle le redoutait. Les sorties en mer n'avaient pas fait que révéler les faiblesses de l'équipage. Elle savait, désormais, que Parangon était beaucoup plus fragile qu'elle ne l'avait cru. Vrai, c'était un bâtiment solidement construit. Une fois que Brachon avait réparti le lest à son gré, il avait bien navigué, mais ne s'était pas comporté comme une vive nef. Althea était prête à l'accepter tant qu'il ne s'opposerait pas ouvertement aux œuvres manœuvrant sur ses ponts. Ce qu'elle trouvait très dur à supporter, c'était la souffrance manifeste de Parangon. Chaque fois que Brachon donnait l'ordre de changer d'armure, la figure de proue tressaillait. Elle décroisait brièvement les bras et avançait des mains tremblantes, puis les recroisait aussitôt et les serrait sur sa poitrine. Elle contractait les mâchoires, mais sa peur frémissait à travers le navire. Autour d'elle, Althea constatait les réactions de l'équipage. Les hommes se jetaient des coups d'œil, scrutaient le gréement, la mer, cherchant la source de leur malaise. Ils étaient trop novices pour se rendre compte qu'ils étaient infectés par la peur de Parangon. Ce qui, au lieu de les immuniser, les prédisposait à la panique. Leur fournir des explications n'aurait fait qu'empirer les choses. Ils apprendraient. Avec le temps, ils finiraient bien par apprendre. Le marchand Restart avait fait réparer sa voiture, les coussins avaient été soigneusement nettoyés. À présent, les portières ouvraient et fermaient correctement, les ressorts n'avaient pas gémi lamentablement quand Malta était montée, et lorsque les chevaux s'étaient mis en route, les secousses ne l'avaient pas fait claquer des dents. Tout avait l'air assez propre. Tandis que la voiture se frayait un chemin dans les rues animées de Terrilville, une brise soufflait par la vitre. Pourtant, Malta n'arrivait pas à se convaincre qu'elle ne sentait pas l'odeur du cochon mort. Elle se tapota les narines de son mouchoir parfumé. « Tu vas bien, chérie ?» demanda sa mère pour la dixième fois. « Mais oui !» « Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. » Elle se tourna et regarda par la vitre en attendant la prochaine réplique de sa mère dans le dialogue. « C'est normal que tu sois émue. Notre navire part aujourd'hui et le bal a lieu dans 8 jours. »«
On ne peut plus normal !» renchérit Davad Restart de bon cœur.
Il sourit à la ronde avec empressement.
« Vous allez voir, ma chère, ceci va marquer le tournant de notre fortune. »
« Certainement !»
approuva Ronica. Mais, aux oreilles de Malta, ces paroles résonnèrent davantage comme une prière.
« Et nous y voilà !»
beugla Davad avec enthousiasme, comme si personne ne l'avait remarqué. La voiture s'arrêta en douceur.
« Non, restez assise, restez assise » dit-il, alors que Kefria tendait la main vers la portière. « Le cocher va vous ouvrir !»
L'esclave, en effet, vint à la portière de la voiture, l'ouvrit et les aida à descendre. Ronica d'abord, puis Kefria le remercièrent de sa courtoisie et l'homme parut mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à Davad comme s'il s'attendait à être réprimandé, mais le marchand était trop occupé à ajuster sa veste. Malta eut un bref froncement de sourcils. Soit Davad avait prospéré ces derniers temps, soit il avait simplement décidé d'être plus prodigue de son argent.
La voiture réparée, le cocher stylé, les habits neufs. Il mijotait quelque chose. Elle se promit de surveiller de près le premier marchand. Aussi sot qu'il soit en société, Davad avait un côté madré et il flairait le profit. Peut-être y avait-il moyen de faire bénéficier sa propre famille de ses combines. Il offrit son bras à Ronika qui l'accepta. Elles étaient toutes les trois parées de leurs plus beaux atours. Grand-mère avait insisté là-dessus. « Nous ne pouvons nous permettre d'avoir l'air pauvre un jour pareil !» avait-elle dit d'un ton quelque peu farouche. On avait donc récupéré du tissu sur de vieilles robes qu'on avait lavées, retournées et repassées. Rack révélait de vrais talents de couturière. Malta devait admettre qu'elle avait l'œil pour copier les derniers modèles en vogue dans les rues de Terrilville. Aujourd'hui, elles étaient presque à la mode, excepté les ombrelles de l'année passée. Même Seldon était convenablement habillé en culotte bleue et en chemise blanche. Il tirait encore sur son col. Malta fronça les sourcils d'un air sévère et secoua la tête. « Un petit marchand comme il faut ne tripote pas son col !» lui dit-elle. Il baissa la main mais lui lança un regard de travers. « Ça m'étouffe d'être un petit marchand comme il faut !» riposta-t-il du tac au tac. « Il faut t'y habituer !» affirma-t-elle en lui prenant la main. La journée était chaude, la brise fraîche et les quais de Terrilville aussi animés qu'à l'ordinaire. Sa mère suivait sa grand-mère et Malta venait sur leurs talons avec Seldon. Elle avait beau feindre de ne pas les remarquer, elle fut pourtant flattée de voir les marins tourner la tête sur son passage. Certains faisaient des commentaires admiratifs, quoique inconvenants. Elle garda la tête haute et ne modifia pas l'allure. Soudain, lui vint le regret poignant de n'être pas une fille de trois navires. Elle aurait cligné de l'œil, aurait répondu d'un ton leste et personne n'aurait jugé qu'elle dérogeait si elle séduisait un jeune et vigoureux marin. Elle était obligée de vivre aussi chichement qu'une fille de pêcheur. Pourquoi lui était-il interdit d'en adopter l'insouciance? Sa grand-mère ralentit le pas quand ils atteignirent le môle ouest. Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin le long des quais, elle salua toutes les vives nefs par leur nom. Celles-ci ne manquèrent pas de lui retourner son salut en y ajoutant leurs bons vœux pour le voyage du parangon. Certaines s'exprimaient sur un ton cérémonieux, mais Malta crut discerner chez d'autres une sincère chaleur. Ronika Vestrit les remercia une par une avant de continuer. Quand ils parvinrent enfin à hauteur du parangon, Malta fut surprise par la vague d'émotion qui la submergea. Il était là, le navire aveugle, le navire fou, l'épave que sa famille avait récupérée et tant peinée à remettre à flot. Il se balançait tranquillement le long du quai. Ses cuivres étincelaient, son bois luisait. Il avait l'air d'un bâtiment neuf. Il portait haut la tête, bras croisés sur sa poitrine musclée. Sous les yeux éclatés, la mâchoire était ferme et le menton volontaire. Il ne ressemblait en rien à la vieille carcasse pourrie qu'elle avait vue la dernière fois au pied des falaises. La petite main de Seldon se serra dans la sienne. Sa grand-mère s'arrêta et regarda la figure de proue. Elle haussa la voix.
« Bonjour, parangon. Belle journée pour commencer un voyage. »
« Bonjour à vous, dame Vestrit. »
Un sourire lui fendit la barbe.
« Je suis aveugle, mais pas sourd. Vous n'avez pas besoin de crier. »«
Parangon !»
le reprit Brashen. Il était soudain apparu sur le gaillard d'avant. Althea se hâta de les rejoindre.
« Ce n'est rien, capitaine Trell. Le navire a raison. »
dit Ronika Vestrit sans se formaliser.
« Mais je répète que c'est une belle journée pour commencer le voyage. »
Il y eut alors un échange de plaisanteries entre Brashen, Ronika et le navire. Malta n'y prêta guère d'attention. Elle était contente que la vive nef ne pleurniche ni ne divague. Elle avait craint que Parangon ne se soit mis dans un de ses délires à vociférer et à bombarder les gens. Elle l'avait vu une fois ainsi quand elle s'était aventurée sur la plage pour constater les progrès du travail. Il l'avait épouvantée au point qu'elle avait aussitôt fait demi-tour et était rentrée à la maison.
son attention se dirigeait surtout sur tante Althea et Brachentrell. Elle soupçonnait toujours qu'il y avait quelque chose entre eux, mais aujourd'hui elle n'en discernait aucun signe. Aujourd'hui, Brachen faisait très capitaine Trell. Ses habits étaient propres et nets, sa chemise blanche et ses culottes bleu marine méticuleusement repassées. La vareuse bleue lui donnait de la dignité. C'étaient les vêtements de grand-père, réajustés à sa taille. Elle se demanda s'il le savait, s'il trouvait étrange de revêtir la défroque de son ancien capitaine. Althea était vêtue plus sobrement qu'à l'ordinaire. Elle portait un corsage blanc, une jupe culotte avec un gilet assorti et même des chaussures. Malta était prête à parier qu'elle posait pour la galerie. Elle avait beau tenir le rôle du lieutenant, elle reviendrait sans doute à ses habits de garçon dès que possible. Décidément, il y avait quelque chose de singulier chez tante Althea. Son amie Ambre avait manifestement décidé que, si les regards devaient être braqués sur elle, il fallait que ce soit pour une bonne raison. Quand elle apparut, elle portait les frusques d'un simple matelot, mais tous les boutons de ses culottes et de sa chemise étaient sculptés à la main. L'accoutrement ne la flattait pas. Il soulignait sa silhouette maigre et sèche, à la poitrine plate et aux hanches étroites. Elle arborait un gilet bien ajusté, brodé de papillons extravagants. Malta jugea que son teint était son seul attrait. Sa peau et ses cheveux avaient la couleur du bois blond, ses yeux étaient presque de la même nuance. Elle avait tiré sa longue chevelure en une tresse qu'elle avait épinglée sur sa tête. Étrangère, c'était le seul mot qui lui convenait. Même ses boucles d'oreilles étaient désassorties.
« Bienvenue à bord !» disait Brachen.
Les autres avaient commencé à gravir la planche d'embarquement. Il était descendu pour les saluer et offrait son bras à Malta en l'invitant à monter. Il n'y a pas si longtemps, elle se serait sentie grisée et flattée. Il était plutôt beau, provoquant, l'air un peu canaille. Mais le côté frivole de Malta avait été desséché par ses peurs et ses rêves. Une fois à bord, Althea les guida en leur montrant le travail qui avait été accompli. Tout cela n'avait guère de sens pour Malta, mais elle affichait un intérêt poli. Les marins, occupés aux dernières tâches de l'appareillage, s'écartaient précipitamment de leur chemin, mais la regardaient passer, les yeux ronds. Leur regard était trop effronté, leur manière trop grossière pour que Malta les trouve flatteurs. Elle se demanda ce que tante Althea éprouverait dans cette compagnie durant les longues semaines à venir. Peut-être y prendrait-elle plaisir, se dit-elle consternée. Elle suivit sa mère et sa grand-mère dans leur lente visite du pont supérieur, en se sentant bien loin de tout cela. Brachen se tenait en haut de la planche d'embarquement où les autres spectateurs avaient commencé à se rassembler. Il était réconfortant de voir les marchands de Terrilville leur prêter enfin ce modeste soutien. La plupart étaient eux-mêmes propriétaires de vives nefs. Peut-être étaient-ils les seuls à pouvoir apprécier leur situation difficile. Certains étaient vêtus comme s'ils étaient préparés à faire leurs adieux. D'autres étaient les capitaines ou les membres d'équipage des vives nefs présentes dans le port. L'entreprise avait attiré une foule assez considérable, estima Malta. Plusieurs personnes s'arrêtèrent même pour bavarder avec Davad. Le marchand avait été assez avisé pour se poster près de Brachen et tous ceux qui montaient à bord étaient obligés de le saluer aussi. Malta devina qu'il avait été capable de se refaire une réputation auprès des marchands en jouant les intermédiaires dans l'affaire. N'empêche, les saluts étaient guindés et brefs. Davad était radieux, comme s'il ne s'en apercevait pas. Au moindre prétexte, il se lançait dans le récit intarissable, bien préparé, de tout ce qu'il avait fait pour rendre cette journée possible. Malta avait grand soin de se tenir hors de portée de voix et d'éviter son regard. Cet homme était une crapule.
« Tu viens, Malta ?»
lui demanda sa tante avec un sourire. Elle lui fit signe qu'ils allaient quitter le gaillard d'avant pour visiter le reste du vaisseau. Malta n'avait aucune envie de voir les cales ou le logement nauséabond des matelots.
« Je crois que je vais rester ici, »
risqua-t-elle.
« C'est une trop belle journée pour aller en bas. »«
Eh bien, moi j'y vais !»
déclara hardiment Selden qui lâcha sa main. Althea parut troublée.
Elle jeta un coup d'œil aux hommes d'équipage tout autour. Manifestement, elle hésitait à laisser sa nièce en pareille compagnie. Puis son visage s'éclaira soudain et elle hocha la tête.
« Bien sûr, tu peux rester. »
Malta regarda par-dessus son épaule. Ambre se tenait derrière elle, penchée sur la lisse près de la figure de proue. Elles avaient dû échanger quelques signes de connivence. Althea savait maintenant que Malta serait en sécurité. Intéressant. Et intéressant aussi de se retrouver en compagnie de ce personnage mystérieux et scandaleux qu'était l'étrangère fabricante de perles.
« Sois sage, Malta !»
exhorta Kefria avec un regard inquiet, mais elle se laissa entraîner avec grand-mère. Dès qu'elles eurent quitté le pont, Malta reporta son attention sur Ambre. Elle plaqua sur son visage un sourire artificiel et lui tendit la main.
« Meilleurs vœux pour votre voyage, dame Ambre !»
Celle-ci prit un air insolent et amusé.
« Merci, dame Havre !»
Elle inclina à peine la tête, mais le geste était aussi courtois qu'une révérence. Elle lui effleura la main du bout de ses doigts gantés. Malta sentit un petit frisson lui parcourir le bras.
Cette femme était si étrange.
Ambre détourna les yeux vers la mer. Était-ce une tentative pour mettre un terme à la conversation? Malta refusa de la laisser retomber.
C'est bon signe ce beau temps pour un départ?
« En effet, » répondit Ambre poliment.
« Et le navire paraît en excellent état. »«
J'ose en convenir. »«
L'équipage semble fin prêt. » »«
Le capitaine Trelle les a préparés aussi minutieusement que possible, étant donné le peu de temps dont il disposait. » »«
En vérité, le voyage paraît s'annoncer sous de bons auspices. »
Soudain, Malta en eut assez de ce petit jeu.
« Pensez-vous que vous avez des chances de réussir ?»
demanda-t-elle abruptement. Il fallait qu'elle sache. Tout ceci n'était-il qu'un exercice extravagant, une affectation d'intérêt de la part de sa famille pour le sort de la Vivacia et de son équipage, ou y avait-il réellement une chance qu'il puisse sauver son père ?«
Il y a toujours une chance, »
répondit Ambre d'une voix subitement grave. Elle se retourna pour lui faire face. L'intensité de sa compassion lui fut comme une brûlure.
Et quand on intervient pour tenter de changer le cours des choses, alors les événements deviennent probables. Beaucoup de gens sont intervenus pour essayer de sauver votre vive nef, votre père et votre frère, Malta.
En entendant son nom, Malta ne put faire autrement que croiser son regard.
C'étaient des yeux étranges, et leur étrangeté ne tenait pas seulement à leur couleur. Pour une raison ou pour une autre, cela n'avait pas d'importance. Elle sentait que ses paroles cherchaient à l'atteindre.
« Nous n'avons d'autre but que de les sauver. Je ne peux vous promettre que nous réussirons, mais nous essaierons de bonne foi. »
« Je ne sais pas si vos paroles me réconfortent ou me découragent. »
« Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Soyez-en satisfaite. Vous êtes jeune, vous avez le cœur ardent. À cette heure, il est comme un oiseau qui se débat entre les barreaux de sa cage. Lutter davantage ne fera que vous blesser davantage. Attendez, soyez patiente. Le temps viendra où vous pourrez prendre votre envol. Et quand ce moment sera venu, vous devrez être forte, non pas ensanglantée et lasse. »
Les yeux d'Ambre s'élargirent soudain.
« Gare à celui qui va s'approprier vos ailes. Gare à celui qui vous fera douter de votre force. Le mécontentement, c'est le fondement de votre destin, Malta. Une vie mesquine ne vous satisfera jamais. »
Malta croisa les bras et fit un pas en arrière. Elle secoua la tête.
On dirait une diseuse de bonne aventure.
Son rire éclata dans l'air chaud de l'été.
Comme vous m'avez fait battre le cœur.
Elle essaya de rire à nouveau pour écarter l'incident, simple bévue d'étrangère.
« C'est ce que je suis parfois. »
avoua Ambre. À son tour, elle détourna le regard. Elle paraissait mal à l'aise.
« Parfois, oui. Mais si je suis une diseuse de bonne aventure, je ne suis pas une faiseuse de bonne aventure.
Nous forgeons tous notre bonne aventure. »
« Comment cela ?»
Malta eut l'impression qu'elle avait, d'une certaine manière, repris l'avantage dans la conversation. Quand Ambre se retourna pour croiser son regard, cette impression s'évanouit.
« Vous méritez votre avenir, Malta Vestrit, »
déclara la fabricante de perles en inclinant la tête.
« Que vous doit demain ?»«
Demain me doit ?» répéta Malta déconcertée.
« Demain vous doit la somme de vos jours passés. Rien de plus ?»
Ambre tourna le regard vers la mer.
« Et rien de moins. »
« Parfois on regrette que demain nous ait réglé aussi exactement notre compte. » Malta estima soudain qu'elle devait changer de sujet. Elle s'approcha de la lisse et se pencha pour scruter Parangon.
« Notre navire est très beau aujourd'hui, »
dit-elle sans réfléchir.
« Tu étincelles littéralement, Parangon, comme tu dois être ému. »
Aussi vif qu'un serpent qui attaque, la vive nef tourna la tête pour la regarder. C'était à faire froid dans le dos. L'espace ravagé entre son front et son nez la glaça de son regard mutilé. Les couleurs de son visage étaient si naturelles, alors qu'à l'endroit tranché à la hache, ce n'était que bois éclaté et argenté. Sa langue se colla à son palais. Elle s'agrippa à la lisse pour ne pas tomber. La bouche de Parangon s'ouvrit en un large sourire étincelant de blancheur. C'était le rictus de la folie.
« Trop tard pour elle, » murmura-t-il.
Malta ne savait pas s'il s'adressait à elle ou s'il parlait d'elle.
« Trop tard pour elle. De grandes ailes planent au-dessus d'elle. Elle se tapit comme une souris dans l'ombre menaçante de la chouette. Son petit cœur bat à tout rompre. » « Voyez comme elle tremble, mais il est trop tard, il la voit, il me connaît aussi !»
Il rejeta la tête en arrière en éclatant de rire.
« J'étais roi !»
Il jubilait, incrédule.
« J'étais le seigneur de trois royaumes, mais c'est toi qui m'as rendu tel que je suis !» Une carcasse, un jouet, un esclave.
Peut-être était-elle frappée par la foudre dans ce ciel d'azur serein. Elle tomba dans un gouffre noir, rugissant. Elle dégringolait, sans bruit, dans un espace de ténèbres infinies. Puis, de nulle part, surgit un éclair d'or. La forme apparut au-dessus d'elle, trop vaste et trop proche pour qu'elle la distingue en entier. Deux gigantesques cerfs la saisirent, l'étreignirent à la poitrine et à la taille, l'étouffèrent. Elle y planta ses ongles, mais les cerfs, carapassonnés d'écailles comme du métal, étaient impossibles à détacher. Elle ne voulait pas non plus se tuer en tombant si elle la lâchait.
« Choisis ta mort !»
murmura un dragon.
« C'est tout ce qu'il te reste, ma mignonne !» « Le choix de ta mort !»« Non, elle est à moi, lâche-la ! La proie appartient à celui qui s'en empare le premier ! Tu es mort, moi, j'ai encore une chance de vivre, on ne me l'enlèvera pas !»
L'argent iridescent contre l'or se heurtèrent brutalement. Les montagnes s'entrechoquèrent et se disputèrent la proie. Les cerfs se refermèrent et la coupèrent en deux.
« Je la tuerai plutôt que te laisser la prendre !»
Malta n'avait plus de souffle pour crier. Il ne restait presque plus rien d'elle. Ces deux-là étaient tellement immenses, Il n'y avait plus de place pour elle dans leur monde. Elle allait s'éteindre comme une étincelle mourante. Quelqu'un parla en son nom.
« Malta est réelle. Malta existe. Malta est ici. »
Comme du fil qu'on pelote, les couches de son moi se reconstituèrent petit à petit. Quelqu'un la retenait hors du tourbillon de force qui cherchait à la déchiqueter. Elle avait l'impression de reposer dans des paumes chaudes. Elle se blottit serrée au fond d'elle-même et se cramponna. Enfin, elle parla pour elle-même.
« Je suis Malta. »
« Bien sûr que tu es Malta, » disait Kefria d'un ton rassurant, s'efforçant de rester calme malgré sa peur panique. Sa fille était pâle comme une morte. On ne voyait que le blanc de ses yeux. Quand ils avaient entendu le choc sur le pont et qu'ils étaient remontés précipitamment, elle n'avait pas une seconde imaginé qu'il s'agissait de Malta. Sa fille, évanouie, était affalée dans les bras de la fabricante de perles qui lui soutenait la tête. Le navire tout entier roulait. C'était la figure de proue qui le balançait, la tête dans les mains, sanglotant.
« Je suis désolé, je suis désolé !»
répétait Parangon en reniflant.
« Tais-toi !»
lui dit Ambre sur un ton irrité.
« Tu n'as rien fait, tais-toi !»
Alors, en fendant le cercle des matelas attroupés, Kefria vit Ambre lever la tête et s'adresser directement à Althea.
Aide-moi à la faire descendre du navire, tout de suite.
L'intonation dans la voix de l'étrangère n'admettait pas de réplique. Althea se pencha et souleva le corps de sa nièce, mais Brachen apparut tout à coup et prit la jeune fille dans ses bras. Kefria eut le temps d'entrevoir les mains abîmées d'Ambre avant que celle-ci n'enfile précipitamment ses gants. Elle leva les yeux vers Kefria que son regard glaça jusqu'aux os.
« Qu'est-il arrivé à ma fille ? »
demanda-t-elle.
« Je ne sais pas. Vous devriez aller près d'elle. »
La première phrase était un mensonge flagrant, la seconde une évidence. Kefria se hâta de suivre sa fille, alors qu'Ambre se retournait vers la figure de proue et lui parlait d'une voix basse et véhémente. Le navire se calma subitement et le roulis s'atténua. Alors Selden se mit à pleurer. Il pleurait pour un oui ou pour un non. Il n'était pas normal qu'un garçon soit aussi sensible. Comment pouvait-elle penser à cela en un moment pareil ?
« Chut, Selden, viens avec moi !»
lui dit-elle d'un ton sec. Son fils la suivit en piaillant. Une fois sur le quai, elle découvrit que Brachen avait étalé son manteau et y avait déposé Malta. Oronika se chargea de Selden et le fit taire en le consolant. Kefria s'agenouilla près de sa fille. C'était terrible. Un fâcheux présage pour le lancement du navire, et si inconvenant pour Malta d'être étendue là, inconsciente, à la vue de tous les passants. Alors elle gémit et se mit à marmonner.
« Je suis Malta !» « Je suis Malta. »« Oui, tu es Malta, » assura-t-elle. « Tu es ici en sécurité. »
Ses paroles agirent comme une formule magique. La jeune fille souleva les paupières, regarda autour d'elle d'un air hébété, puis ouvrit grand la bouche.
« Oh, aide-moi à me lever, »
dit-elle à sa mère d'un ton suppliant.
« Reposez-vous encore un peu, »
conseilla Brachen. Mais elle avait déjà pris le bras de Kefria et se hissait sur ses jambes. Elle se frictionna la nuque, grimaça, puis se frotta les yeux.
« Que s'est-il passé ? »
demanda-t-elle.
« Vous vous êtes évanouie, »
dit Ambre. Elle était apparue soudain à la frange du groupe. Maintenant, elle s'approchait de Malta et leurs regards se croisèrent.
« C'est tout. Je crois que vous avez été éblouie par le soleil sur l'eau. « Cela peut arriver, vous savez, quand on contemple trop longtemps la mer. »«
Je me suis évanouie. »
Elle leva la main, se tapota la gorge timidement et eut un petit rire frivole.
« Quelle sotte je fais !»
Ses paroles et ses gestes sont si contraints qu'ils n'abusent personne, songea Kefria. Mais Davad, tout affairé, ajoutait
C'est l'émotion, aucun doute. Et nous savons tous à quel point Malta se languit de son père. C'est le lancement de l'opération de sauvetage qui a terrassé la pauvre enfant.
Malta lui décocha un coup d'œil mauvais.
« Sans aucun doute, » dit-elle d'une petite voix venimeuse.
Davad avait beau avoir le cuir épais, il parut sentir la pointe. Il se recula légèrement et la regarda bizarrement.
« Je me suis évanoui, »
répéta Malta.
« Oh là là, j'espère que je n'ai pas retardé le départ. »«
Pas de beaucoup, mais vous avez raison, il faut que nous partions. » Brashen se détourna, mais avant qu'il ait pu crier un ordre, le marchand Freinet s'avança vers lui.
« Épargnez le dos de vos hommes. Les canots du vagabond des mers vont vous remorquer pour sortir. »«
Laissez de la place pour un canot du séduisant !»
brailla le marchand Larfa. En un instant, 5 ou 6 propriétaires de Vivenef proposaient leur aide. Était-ce une démonstration tardive de bonne volonté ou simplement la manifestation de leur hâte à voir Parangon quitter le port? Le bruit courait que plusieurs vives-nefs l'avaient trouvé dérangeant, mais personne n'avait eu la grossièreté de lui disputer le droit d'être amarré au quai.
« Messieurs, je vous remercie !»
avait répondu Brashen avec tant d'ironie que Kefria en était convaincu. Il devait se poser les mêmes questions. Ils firent leurs adieux sur le quai. Mère montra plus d'attendrissement que Kefria ne s'y attendait. Elle fit à sa fille maintes recommandations de prudence. Althea se renfrogna quand Brashen promit de veiller sur elle. En embrassant sa sœur, Kefria ne put que regretter que les choses se soient passées ainsi entre elles. Son cœur était si plein d'émotions contradictoires qu'elle put à peine lui dire adieu. En se retournant, elle fut encore plus troublée de voir Ambre qui tenait la main de Malta.
« Faites bien attention à vous, » disait l'étrangère. Son regard était beaucoup trop aigu.
C'est promis.
On aurait presque dit que c'était Malta qui s'embarquait vers l'inconnu. Kefria vit l'étrangère se détourner de sa fille et monter à bord. Un moment plus tard, la fabricante de perles réapparut sur le gaillard d'avant près de la figure de proue. Elle se pencha et dit quelque chose à Parangon. Il découvrit son visage, releva la tête, prit une inspiration qui lui gonfla la poitrine, puis croisa les bras. Sa mâchoire se crispa dans une expression d'austère détermination. On largua les amarres, on échangea les derniers adieux, les derniers vœux. Les équipages des petites embarcations se penchèrent sur leurs avirons et commencèrent à déhaler Parangon loin du quai, puis dans les eaux du port. Althea et Brashen vinrent rejoindre Ambre sur le gaillard d'avant. Chacun à son tour et ils se penchèrent pour parler à Parangon, mais Kefria ne put distinguer s'il manifestait la moindre réaction. Elle se détourna du spectacle et découvrit Malta qui dévorait le navire des yeux, fasciné. Elle ne put déterminer si le visage de sa fille exprimait l'amour ou la terreur. Pas plus qu'elle n'aurait su dire si Malta contemplait Ambre ou la figure de proue. Elle eut un hoquet de surprise et Kefria reporta son attention sur le navire. Les petites embarcations attrapèrent les haussières qu'on leur avait lancées. Brashen faisait des signes de remerciement tandis que les voiles commençaient à fleurir sur le gréement. Malgré la cavalcade des matelots, c'était assurément un spectacle gracieux. La figure de proue écarta brusquement les bras comme pour embrasser l'horizon. Il cria et un coup de vent leur apporta ses paroles.
« Je vole à nouveau !»
C'était un défi triomphant lancé au monde. Les voiles de Parangon se gonflèrent et il se mit à avancer de lui-même. Depuis le pont, des hurrahs affaiblis éclatèrent. Les larmes piquaient les yeux de Kefria.
« Que ça vous garde ?»
murmura Malta, la voix brisée. Sa mère reprit tout haut.
« Que ça vous garde et vous ramène sain et sauf ?»
La brise sembla emporter sa prière.